Il est 22h53 sur Europe 1. Vous êtes sur votre libre antenne si vous nous rejoignez à peine. Et nous accueillons maintenant Millet au 39-21. Bonsoir Millet.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. Alors Millet, qu'est-ce qui vous amène? Dites-moi.
Bah écoutez, je voudrais parler d'un sujet dont malheureusement on parle depuis de nombreuses années et qui n'avance pas malgré toute la libération de la parole des victimes, à savoir la question de la pédocriminalité et de l'inceste.
D'accord.
Voilà, moi-même j'ai été victime d'inceste quand j'avais 5 ans. Oui. Et aussi, j'ai été victime de la part d'un cousin, comme de nombreux Français et Françaises, qui avait 39 ans. C'est des viols que j'ai oubliés, c'est-à-dire que j'ai vécu ce qu'on appelle une amnésie traumatique,
qui est un
mécanisme du cerveau.
Dans quelles conditions, en fait, ces agressions ont-elles eu lieu, en fait? Vous allez m'expliquer comment elles sont remontées, mais ce cousin, il venait souvent à la maison, il était proche de votre famille?
Alors, pas du tout. C'est des circonstances assez classiques que décrivent de nombreuses victimes. Parce qu'aujourd'hui, je dirige une association de victimes, mais c'était des vacances d'été, quand j'avais 5 ans, en fait, qui se déroulaient chez ma grande-tante. Des vacances d'été assez traditionnelles en famille, où normalement, je devais aller avec ma grande-sœur, mes parents. Et là, cette année-là, j'étais seule parce que ma petite sœur venait de naître et mes parents n'étaient donc pas là. Et ce fameux cousin est arrivé avec son fils. Dès la matinée, il m'a appris à faire du vélo. Moi, j'avais 5 ans, je ne savais pas faire de vélo à deux roues. Et si vous voulez, c'était un prétexte pour m'emmener hors de la maison familiale, donc où j'étais gardée par ma grande-tante, et commettre des crimes. Des crimes, d'un adulte, qu'un adulte commet sur un enfant dans des circonstances qui arrivent malheureusement à de nombreux enfants dans le pays.
Oui, malheureusement.
Et souvent par des proches d'ailleurs.
Oui, souvent. Et la parole de l'enfant est souvent remise en question, malheureusement. Donc, racontez-moi comment, je vais vous écouter d'abord avant de vous poser les questions.
Ben oui, mais je rebondis aussi sur ce que vous dites, c'est-à-dire que quand un enfant subit ça, en fait, il a beaucoup de mal à parler, malheureusement, parce qu'en fait, il est sidéré, il comprend pas ce qui lui arrive. Et souvent, il y a des mécanismes, de mutisme qui se passent, et le cerveau se protège, et voilà. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire que je me suis exprimée avec des dessins très parlants, hein, parce que j'ai dessiné des enfants sans bouche, qui criaient au secours, j'ai dessiné des serpents, donc on sait très bien que ça, c'est souvent des signes d'enfants qui ont été agressés sexuellement. Je dessinais souvent mon agresseur, qui avait une moustache. Voilà, c'est des dessins que j'ai fait en classe, mais on est à une époque où les instituteurs, les institutrices ne sont pas formés à ça, donc personne ne s'en rend compte. Et moi, mon cerveau, après, s'est protégé, c'est-à-dire que j'ai complètement occulté ces crimes qui ont ressurgi après un choc émotionnel, 32 ans après. C'est-à-dire que 32 ans après les faits, après donc avoir subi ce qu'on appelle une amnésie traumatique, tous les souvenirs des crimes sont revenus avec une force, une précision absolument abominable. J'avais 37 ans à l'époque et voilà, j'ai déposé plainte à ce moment-là, mais malheureusement c'était trop tard parce qu'il y avait prescription.
D'accord.
Voilà, prescription, ça veut dire qu'en France, au bout d'un certain temps, les crimes qu'on a subis ne peuvent plus être jugés, ce qu'on appelle un droit à l'oubli, et on se bat aussi pour ça, pour que ça soit enlevé.
Ce qui est assez incroyable, que l'on puisse...
C'est-à-dire qu'on se dit que oui, un homme qui commet un viol, il commet un viol, il commet un crime. Et au bout d'un moment, malgré le fait qu'il a commis ce crime, ce viol, c'est oublié par la justice. C'est une injustice totale.
Et combien d'années avez-vous passé sans le savoir, en fait, vous m'avez dit?
Alors, 32 ans, en fait.
Pendant 32 ans.
Alors, en fait, c'est complexe parce que plein d'autres victimes racontent que il y a plein de symptômes, c'est-à-dire que moi j'ai eu une phobie scolaire, j'ai eu du trouble du comportement alimentaire. Donc aujourd'hui, les psychiatres, la médecine arrivent à déceler ce genre de phénomène chez des adolescents et souvent aujourd'hui on arrive à soupçonner d'éventuelles agressions sexuelles parce que c'est des symptômes qui sont connus, comme les conséquences des agressions sexuelles.
Oui.
Mais moi, à l'époque, ben, j'ai subi tout ça, mais personne ne s'est posé la question. Et mon inconscient n'avait pas fait rejaillir le souvenir, en fait. Et c'est simplement 32 ans plus tard que ce souvenir a surgi.
Alors, on va continuer à évoquer cette amnésie traumatique hein, qui arrive et bien évidemment qui surprend hein, l'auditoire parce que on a du mal à réaliser comment cela peut arriver, mais pourtant cela existe bien et on va essayer de parler des mécanismes aussi et ce qui vous a amené vous à ce que tout ça remonte. On laisse passer l'info Millet et puis on se retrouve dans quelques minutes, d'accord?
Ça marche.
À tout de suite. Comme Millet qui nous appelle ce soir pour nous parler de ce qu'elle a vécu, une amnésie traumatique pendant 32 ans à la suite d'un viol perpétué par l'un de ses cousins, un cousin qui à l'époque avait 39 ans alors qu'elle en avait 5. Et puis pendant 32 ans, Millet, rien. Et est-ce qu'il n'y a pas eu, il y a eu des signes qui aujourd'hui pour vous font sens pendant ces 32 ans ?
Oui, tout à fait. Bah, c'est-à-dire que, et ça c'est hyper important à dire, c'est-à-dire que avec le recul, je suis devenue, alors ça c'est ma mère qui m'a raconté plus tard, parce qu'elle non plus n'avait rien vu à l'époque, mais avec le recul après les faits, je suis devenue une petite fille un petit peu renfermée, donc j'ai changé de comportement, et ça souvent c'est des signes qui doivent alerter, enfin, quand les parents voient des changements de comportement inexpliqués. J'ai eu des troubles de comportement alimentaire, donc par exemple j'ai cessé de m'alimenter, ou à un moment donné je me suis alimentée trop, et tout ça c'est des signes aussi qui sont parlants. J'ai eu des phobies scolaires, enfin voilà, à un moment donné j'avais peur de l'école pour des raisons inconnu, et tout ça, c'est voilà, maintenant avec le recul, on sait que tous ces signaux, ces symptômes peuvent être reliés à des traumatismes infantiles et très souvent à des agressions sexuelles.
D'accord. Et lorsque donc tout ça vous est remonté, dans quelles circonstances est-ce remonté ? Parce que j'évoquais cela avec une victime l'autre jour qui avait été agressée par son père longtemps, hein, lorsqu'elle je crois que c'était de 5 ans à 12 ans, et qui, par exemple, dans le métro, lorsque les portes se fermaient, lorsqu'elle était tout près des portes, vous voyez, avait souvent des crises de tétanie, en tout cas se sentait très mal quand les portes se fermaient. Et, et finalement, tout est remonté alors qu'elle arrivait chez elle, et qu'en ouvrant la porte, en fait, dans le hall de chez elle, de son immeuble, tout s'est déclenché. Et elle décrivait cela comme un disque d'ordinateur endommagé qui était en train de se régénérer, en fait.
Oui, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vraiment, il faut comprendre que quand le souvenir, la mémoire traumatique des viols a ressurgi, ce qu'on appelle la mémoire traumatique, même que ce soit 10, 20 ans, 30 ans, 40 ans auparavant, c'est comme une boîte noire. Donc en fait, il y a tout qui se remet en place comme si vous étiez en train de vivre les faits. Et chez la personne que vous décrivez, ça a été progressif. Et chez moi, j'ai vécu ce qu'on appelle une amnésie totale. C'est-à-dire que le film est revenu avec autant de précision que ce que vous décrivez, mais comme si je vivais un film à la hauteur d'un... Enfin, comme si j'étais dans un film et que je vivais ce que je vivais à la hauteur d'un enfant. C'est-à-dire que j'ai vu la gourmandise, j'ai vu ce qu'il était en train de me faire, donc on va dire les choses crûment, hein, le premier crime ça a été une fellation, donc j'ai revécu ce qu'il m'avait fait subir à la hauteur d'un enfant, et j'ai hurlé quand j'ai eu ce choc émotionnel. Et après cette séance d'hypnose où tout a explosé, en fait, parce que moi, si vous voulez, au début, ça a été comme une espèce de fourre-tout qui est ressorti de mon enfance, donc des souvenirs extrêmement précis de l'âge de 5 ans,
Oui. Comme
si j'avais une caméra à la main, mais des souvenirs anodins. Et c'est lors d'une séance d'hypnose, parce que c'était un gendarme qui m'en avait parlé dans le cadre d'une enquête que j'effectuais en tant que journaliste, où je me suis dit pourquoi pas, parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, je ne comprenais pas pourquoi d'un coup il y avait tous ces souvenirs précis qui remontaient, mais pas les crimes. Et c'est lors d'une séance d'hypnose que tous ces crimes, tout ce crime est revenu comme une bombe atomique à ma conscience. Et à partir de ce moment-là, la boîte noire s'est ouverte. Et à ce moment-là, j'ai vécu ce que vous décrivez que votre auditrice a vécu, c'est-à-dire que j'ai eu énormément de flashs de plus en plus précis et répétitifs de tous ces crimes qui ont été commis. Et souvent, alors, ni votre auditrice ni moi, nous sommes seuls, parce qu'en fait, on dit que l'amnésie traumatique touche entre 40 et 60% des victimes d'inceste et des pédocriminalité. C'est un mécanisme extrêmement puissant et extrêmement courant. Et on peut comprendre, parce que quand un enfant est violé par un adulte, c'est d'une violence telle qu'il y a un mécanisme de défense du cerveau qui se met en place. Et en fait, ce mécanisme de défense, il va mettre de côté le souvenir, et ce souvenir-là, il peut rester enfoui des années, il peut pourrir quand même la vie des gens, parce qu'on passe à côté de sa vie, on est dissocié, on a plein de symptômes comme ceux que je vous décrivais.
Oui.
Ou alors, il peut ressurgir d'un coup, comme c'est arrivé aussi pour Flavie Flamand à la suite d'un deuil. Andréa Bescon le décrit aussi souvent, quand elle a vu son agresseur dans la rue, au bout de 16 ans ou 20 ans, les crimes de viol ont ressurgi. Et c'est vraiment un mécanisme extrêmement courant et très souffrant. Et c'est pour ça que nous, on se bat aussi pour que ce soit reconnu dans la loi.
D'accord. Et donc, en fait, vous, lorsque c'est arrivé, quel est l'élément déclencheur pour vous ?
En fait, moi, j'étais dans une période extrêmement de burn-out, de grosse fatigue. On dit souvent que les périodes de fragilité favorisent la remontée des traumatismes. Et moi, j'ai eu un choc émotionnel, c'est-à-dire que j'ai rencontré dans le cadre professionnel une nouvelle collègue qui, si vous voulez, a fait ressurgir plein de souvenirs de mon enfance. Alors, je ne la connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Mais il s'est avéré qu'après coup, et c'est des rencontres un peu du destin, hein, je ne sais pas si on peut expliquer rationnellement, mais en tout cas, il s'est avéré que cette jeune femme avec qui on est devenu amie avait vécu aussi un traumatisme à l'âge de 5 ans. En l'occurrence, elle avait été opérée à cœur ouvert. Et en fait, quand on s'est rencontrés, elle-même avait une amnésie traumatique par rapport à cet événement-là,
oui,
qui pourtant
oui.
était un événement médical. Et en fait, c'est comme si, vous voulez, nos deux traumatismes s'étaient entrechoqués en miroir. Et donc, il avait provoqué une espèce de résurgence. En plus, elle m'avait rappelé aussi une amie physiquement, une amie, alors c'est complètement ridicule parce que c'est une physionomie évidemment, mais une amie que j'avais eue en maternelle juste avant que je sois violée. Et donc, du coup, il y a eu des éléments. Alors, comment ça se fait que l'inconscient d'un coup se met à ouvrir la boîte noire et que ça ressurgit d'un coup, ça je ne sais pas si on peut l'expliquer, en tout cas moi c'est ce qui m'est arrivé.
Oui.
Chez d'autres victimes ça peut être progressif, chez d'autres ça peut être aussi une amnésie partielle, ça peut être un bout de souvenir mais on n'a pas tout. En tout cas moi ça a été vraiment une explosion.
L'explosion, ouais. Mmh. Mmh. Et comment l'explosion en fait, elle refait venir des images très précises en fait ?
Absolument, c'est-à-dire que moi j'ai vraiment vu la gourmette que portait mon agresseur au moment où il effectue ce premier viol. J'ai pu décrire ses sous-vêtements, j'ai pu décrire sa pilosité. Ça, c'est des éléments que j'ai donnés quand j'ai déposé plainte, quand j'ai eu enfin la force de déposer plainte, parce que je ne l'ai pas eu tout de suite évidemment. Et tout ça, alors que je n'avais pas pensé à cet individu depuis 32 ans, j'avais complètement occulté de ma mémoire, tout ça, c'est des éléments que lui a confirmés pendant son audition. Évidemment, il a nié les faits, mais je veux dire, c'est des éléments qui me sont revenus de manière extrêmement précise.
Mmh.
Je veux dire, et il a bien confirmé qu'il portait bien, à cette époque, une gourmette que lui avait offert sa femme. Donc, si vous voulez, c'est quand même impressionnant. Quand cette mémoire remonte, elle peut remonter avec des détails extrêmement précis. Parfois, moi j'ai une association où il y a des victimes d'amnésie traumatique et certaines me décrivent des petits points sur les moquettes, des petits points roses sur une moquette grise qu'elles visionnaient, parce que souvent quand les victimes se font violer, elles sont comme sidérées, donc elles fixent leur attention sur des petits détails. Et quand la mémoire de ces crimes remonte, souvent elles sont en mesure de dire ces petits détails. Et c'est pour ça que souvent, parfois, c'est comme une mémoire qui est inchangée,
oui.
qui n'est pas oblitérée par le temps. C'est-à-dire qu'elle ressurgit avec des détails extrêmement précis, alors bien sûr morcelés, mais extrêmement précis, et qui peuvent souvent être vérifiés, de fait.
Alors, après que tout ça soit remonté à la surface, comment est-ce que vous avez accusé le coup, en fait ? Parce que ça a dû être un choc énorme, je suppose.
Ben oui, oui, ça.
Comment vous êtes fait accompagner, en fait, à qui l'avez-vous dit? Parce que c'est aussi compliqué de je suppose, de dire ce qui arrive, parce que ça n'est pas commun, hein, d'avoir une amnésie comme celle-là. Vous en avez parlé à qui, en premier?
En l'occurrence, mon premier réflexe a été vraiment de rester hyper rationnel. Donc j'en ai parlé à ma compagne de l'époque, mais moi-même, je me croyais pas moi-même. Parce que c'est vrai ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est tellement violent comme expérience et tellement au début totalement impalpable et tellement incroyable. Enfin, quand on n'est pas du tout formé à ces mécanismes de mémoire qu'on connaît bien maintenant, mais enfin, je veux dire, quand on le subit, on se dit mais c'est pas possible. Enfin, je me crois pas, j'invente, je suis folle, enfin tout y passe et des meilleurs. Et mais si vous voulez, quand le cerveau libère cette mémoire, c'est quand même extrêmement insistant. Donc c'est des flashs qui se répètent et à partir de là, quand on est un petit peu en mesure de se mettre en action, ben, j'ai évidemment pu corroborer énormément d'éléments de ma mémoire qui remontait à la surface avec les témoins de l'époque, enfin pas les témoins des scènes évidemment parce qu'il n'y en avait pas, mais en tout cas le contexte de l'époque. Donc j'ai pu mettre ça en lien avec ce que j'avais vécu, avec des dessins qu'a retrouvé ma mère, avec des dates qui correspondaient exactement aux souvenirs qui étaient remontés. Mais alors il y a tout d'abord tout un processus aussi pour se croire soi-même, oui. Et puis pour pouvoir corroborer, après pour pouvoir un petit peu s'apaiser. Et une fois que tout ça est un petit peu apaisé, qu'on s'est rassemblé, moi j'ai eu besoin de déposer plainte, parce que autant j'avais tout un travail thérapeutique à faire, et ça toutes les victimes y passent, parce que c'est tellement souffrant qu'on a besoin de se recomposer et de se faire accompagner, mais toujours est-il que moi, pour moi c'était important, j'avais été victime d'un crime, et donc j'avais besoin aussi de faire une procédure judiciaire, ce que j'ai fait. Et voilà, ma plainte a été classée sans suite parce qu'il y avait prescription, mais j'ai été jusqu'en cours de cassation pour tenter de faire reconnaître mon amnésie traumatique, dire que à cause de cet oubli, j'avais pas pu déposer plainte plus tôt. Bon voilà, ça a été rejeté, mais en tout cas ça a donné lieu à des réformes législatives, et c'est toujours un combat qu'on continue aujourd'hui, parce que je veux dire, on se dit les victimes qui sortent d'amnésie, alors aujourd'hui on peut déposer plainte quand on est victime de viol, quand on est enfant jusqu'à 48 ans, mais quid des victimes qui ont 48 ans et un jour et qui sortent d'une amnésie? Nous, on pense que c'est un mécanisme neurologique tellement et médical tellement fréquent que décrit tellement de victimes qui ont beaucoup de difficultés à en parler justement, c'est pour ça que c'est important d'en parler encore et toujours, qu'on voudrait que ça soit reconnu dans la loi. Et on se bat actuellement, parce qu'il y a une proposition de loi qui va arriver jeudi à l'Assemblée, on se bat vraiment pour que ce mécanisme soit reconnu. Pour l'instant, le gouvernement ne veut pas en entendre parler, donc au moins on arrive à se battre sur les autres sujets de pédocriminalité. Et là, jeudi, on va essayer de se battre pour avoir un vrai seuil d'âge de non-consentement à 15 ans et à 18 ans en cas d'inceste. Et là aussi, on n'est pas content, parce qu'il y a plein d'exceptions dans cette loi, qui est la proposition de loi Billon. Et voilà, nous, on en a marre que les enfants ne soient pas protégés en France. Et il y a vraiment un sujet majeur. Et on s'est réunis tous, on a créé un collectif qui s'appelle Sauvons les enfants. Et on veut que la protection de l'enfant soit vraiment un sujet majeur des élections présidentielles de 2022, parce qu'on pense que, je veux dire, la parole des victimes se libère, il y a MeToo, inceste, tout le monde parle, et il ne se passe rien au niveau des lois. Et ça, ce n'est pas normal.
D'accord. Aujourd'hui, vous en êtes où vis-à-vis de tout ça, en fait, parce que vous m'avez dit que vous n'aviez pas pu porter plainte. Est-ce que vous avez pu confronter votre agresseur à un moment ou un autre?
Alors, c'est une très bonne question, mais le fait est que j'ai déposé plainte, mais on a classé sans suite ma plainte parce qu'il y avait prescription, et que pendant cette procédure-là, j'ai demandé une confrontation, évidemment, avec mon agresseur. Mais là, c'est les horreurs de la justice, c'est-à-dire que, comme lui a été auditionné qu'en tant que témoin, il a évidemment refusé la confrontation, et j'ai jamais pu être confrontée à mon agresseur. Et donc, de ce fait, la justice a classé sans suite ma plainte. C'est pour ça que j'ai été jusqu'en cours de cassation, pour tenter d'obtenir un procès que j'ai jamais obtenu, puisque la justice a définitivement dit qu'il y avait droit à l'oubli, qu'il y avait cette fameuse question de prescription, et que du coup, mon agresseur ne serait jamais jugé.
Le droit à l'oubli, voilà. C'est quand même hallucinant de parler,
c'est ouf,
d'oser, en plus, vous parler d'un droit à l'oubli, quoi. C'est,
Alors que moi, j'avais moi-même oublié, vous voyez, à quel point c'est hyper violent pour les victimes de
non,
leur
mais
parler
en
de droit
plus,
à l'oubli.
un mec
Voilà.
qui a 39 ans fait ça, ça veut dire qu'il a fait d'autres victimes, c'est évident.
Mais évidemment, ouais, évidemment.
Il est
Et
encore
ça,
vivant,
c'est
il est
juste.
encore vivant, ce mec?
Il est encore vivant, a priori. Évidemment, moi, j'ai pas plus du tout de contact avec lui.
Mais vous avez
Enfin,
pu aller
voilà.
vous confronter à lui ou pas?
Ben, j'aurais aimé, mais si vous voulez, ce qu'il faut savoir, c'est quand les souvenirs surgissent comme ça, vous êtes dans une colère abominable. Et donc, on est dans un état de droit. J'ai fait appel à la justice. Voilà. Ben, j'ai demandé à la justice une confrontation, comme je vous le disais. Bon, ben, ça n'a pas été possible. Partant de là, étant donné sa violence et ce qu'il m'avait fait subir, voilà, j'ai pas eu le courage, évidemment, d'aller le confronter et d'aller là-bas pour lui demander des explications. Je souhaitais que ça passe par la justice, que lui n'a pas fait, évidemment, parce que quand il m'a violée, il a fait ça à l'abri des regards. Moi, je voulais qu'il réponde de ses actes devant la justice. Ça n'a pas été possible. Bon, ben voilà. Voilà, moi, la colère que j'avais légitime, je l'ai transformée dans un combat collectif. Et lui a dû au moins s'expliquer devant des gendarmes. Donc,
Il a
c'est-à-dire,
dû,
il s'est.
quand même s'expliquer devant les gendarmes.
Ben, il a été auditionné. Voilà. Après, il était, d'après ce qu'on m'a dit, il était très en colère d'être auditionné. Voilà. Et moi, ce que je pense aussi, c'est ce que vous disiez. C'est-à-dire que il avait tout à fait le profil. Sa femme était nourrice à la maison. Il avait tout à fait le profil d'avoir fait plein d'autres victimes. Et c'est ça aussi le problème du droit à l'oubli. C'est-à-dire que quand une victime de ce genre d'individu arrive à se recomposer pour pouvoir déposer plainte, et souvent ça arrive très tardivement après les faits, ben la question de lever la prescription, donc décider l'imprescriptibilité et crime sexuel sur mineur, ça serait aussi protéger les autres victimes. Ça serait protéger la société de ce genre de prédateur qui certainement a dû faire plein de victimes au fil des années.
Bien
Et ça,
évidemment.
c'est pas normal. C'est pas
Bien
normal, enfin.
évidemment. Il a dû faire plein de victimes et le problème, c'est qu'il ne sera jamais puni. Jamais.
Voilà.
C'est terrible. C'est vraiment terrible.
Voilà, et puis bon, je suis vraiment pas la seule dans cette histoire. Je veux dire, l'impunité de la pédocriminalité, elle est majeure, hein. C'est 99%, c'est 1% des crimes sexuels sur mineurs qui aboutit aux assises en France. Donc, je veux dire, mon histoire, elle est à l'image de. Bah, voilà, chaque année, il y a 165 000 enfants et filles et garçons qui sont victimes de viols et tentatives de viols. Ouais, il y a 1% de 1%, 4% qui déposent plainte et il y a 1% qui aboutit aux assises. Donc l'impunité, elle est quasiment majeure dans ce pays sur ces questions-là.
Ouais,
Bon.
c'est quand même bon. Cette justice, par contre, est faite bizarrement, tout de même, sur cette prescription. C'est quand même, ça reste quand même un mystère pour moi qu'on n'étale pas ça à la vie entière, quoi. C'est quelqu'un qui fait enfin, qui commet ce genre de crime doit pouvoir risquer à vie d'être attrapé. C'est
Mais absolument, ne serait-ce que pour donner un signe de non-tolérance, de tolérance zéro dans cette société. Alors peut-être, sans doute, ça n'arrêtera pas les plus grands prédateurs, mais au moins que la société et les responsables politiques fassent un choix majeur de dire non. Enfin, c'est pas possible. C'est tolérance zéro. Donc, ce sont des crimes qui peuvent être poursuivis à vie des auteurs. Au moins, ça donnera un signe de l'orientation de cette société en faveur de la protection des enfants et des victimes. Et c'est vraiment pas le cas aujourd'hui.
Et ouais, non, mais bon, je pense qu'on est arrivé au bout, malheureusement. Il n'y a rien à faire, en fait. Rien à faire.
Ben, enfin, moi, je voudrais quand même donner un message d'espoir parce que voilà, on se rend compte que ça va vraiment pas. Et maintenant, tous les acteurs de la protection de l'enfance, que ce soit du harcèlement, que ce soit contre la prostitution infantile, ceux qui luttent contre la pédocriminalité, l'inceste, maintenant, on commence à s'unir parce qu'on commence à voir que, voilà, unis, on peut réussir à faire des choses. Et ça, c'est quand même un message d'espoir parce que les choses vont finir par changer. Je veux dire, la parole des victimes se libère. Il y a eu MeToo inceste. Et voilà, les acteurs de ces luttes-là s'unissent. Et je pense qu'à terme, ça changera, petit à petit.
Oui, c'est à espérer. C'est à espérer. Merci beaucoup, Mia, en tout cas, pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Et puis, Et puis, courage à vous et bon vent, si je peux m'exprimer ainsi. Merci en tout cas mille fois pour ce témoignage. Vous voulez rajouter quelque chose ?
Non, mais merci beaucoup de nous donner la parole. Merci de me donner la parole sur ce sujet. Il faut continuer à en parler parce que voilà, sinon il y a rien qui avance. Donc merci mille fois.
Je vous en prie. Et on sait qu'ici, en tout cas, oui, les choses peuvent avancer, ça c'est clair. Mais c'est une vision de la société qu'on a, qui participe au débat. Hein. Et c'est important d'avoir des endroits où vous pouvez vous exprimer les uns et les autres, bien évidemment. Merci Millet.
Merci à vous, bonne soirée.
Bonne soirée, au revoir.